Radio Prague, les informations.
Le Premier ministre tchèque a révoqué le ministre de l'Agriculture. Chaise et Schengen au menu des discussions entre les premiers ministres tchèques et bulgares. Et puis le gouvernement tchèque va affecter 300 millions de couronnes pour soutenir les productions cinéma étrangères. Le Premier ministre Petr Nečas a annoncé qu'il avait révoqué le ministre de l'Agriculture, Ivan Fuksa, ce mardi, issu du même parti, l'ODS. Monsieur Fuksa, surpris par la décision, a déclaré que Petr Nečas avait avancé des raisons politiques à sa révocation. Les commentateurs expliquent cette décision par des luttes internes au sein du Parti civique démocrate. Ivan Fuksa était entré dans ses fonctions en juin 2010 avec les autres ministres du gouvernement de centre-droit. Au printemps 2011, il avait été critiqué suite au lancement d'un appel d'offres pour l'exploitation de bois dans des forêts placées sous la gestion de l'État. C'est notamment la situation du groupe énergétique Chess en Bulgarie qui a été à l'ordre du jour des pourparlers à huis clos ce mardi à Prague entre le Premier ministre tchèque Petr Nečas et son homologue bulgare Boyko Borisov. Le chef du gouvernement bulgare a assuré Petr Nečas qu'il cherchait à résoudre les problèmes de cette société en Bulgarie et qu'il négociait avec la direction de Chess depuis plusieurs mois. L'année dernière, les autorités bulgares avaient en effet critiqué la société Chess pour les prix d'électricité trop élevés qu'elle demandait aux consommateurs bulgares. Et toujours dans le cadre de cette rencontre bilatérale, Petr Nečas s'est fait l'avocat de la Bulgarie face à certains pays de l'Union européenne qui posent des conditions à son entrée dans l'espace Schengen. En effet, les Pays-Bas et la Finlande s'opposent pour l'heure à ce que la Bulgarie rejoigne la zone de libre circulation. Petr Nečas a fait savoir à son homologue qu'il soutenait l'entrée de la Bulgarie dans Schengen. Le gouvernement tchèque va affecter 300 millions de couronnes en soutien des productions cinématographiques étrangères en 2012 tirées du budget du ministère de la Culture. Celles-ci pourront bénéficier d'un crédit d'impôt de 20% sur les dépenses du tournage. En juin 2010, la Commission européenne avait donné son feu vert à ce programme de crédit d'impôt élaboré par le gouvernement tchèque pour inciter les productions étrangères à venir tourner leurs films à Prague. Des programmes similaires existent en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Hongrie, en Irlande et dans d'autres pays de l'Union européenne où les crédits d'impôt varient entre 15 et 28%. Avant l'approbation du ministère de la Culture pour 2012, plusieurs grosses productions ont fait savoir qu'elles étaient intéressées par un tournage dans la capitale tchèque. Dans la nuit de lundi à mardi, un mineur de 32 ans est décédé des suites de l'affaissement d'un rocher à l'intérieur de la mine de Karvina dans le nord de la Moravie. C'est le cinquième accident mortel de ce type depuis le début de l'année dans cette région. L'accident s'est produit peu après minuit à quelques 980 mètres sous la surface du sol. Et puis du 4 au 9 octobre se déroule Design Block, le rendez-vous du design à Prague. Cette année, Design Block se déroule dans les quartiers de Holešovice, Karlin, également dans la nouvelle ville. Cette 13e édition présente toutes les nouveautés, toutes les nouvelles tendances dans les domaines de l'ameublement, de la décoration et de la mode. Design Block va de pair avec Design Block Fashion Week, la semaine de la mode qui se déroule dans les locaux de la maison municipale et dans la résidence du maire de la ville. On finit par un mot de météo. Mercredi, jour de fête des Eliška, le temps en République tchèque sera d'abord presque clair, puis nuageux à couvert et les températures maximales ne dépasseront pas les 22 degrés. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque.
En visite en République tchèque, l'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine Albright a évoqué à la télévision les problèmes et les perspectives du monde actuel. Des jeunes artistes tchèques participent à la Biennale d'art contemporain de Lyon, qui a commencé le 15 septembre et se déroulera jusqu'à la fin décembre. Tels sont les thèmes dont nous allons vous entretenir dans la première partie de notre émission. La suite, notre émission régulière Panorama, sera consacrée à la situation de la minorité rome en République tchèque. Voilà ce qu'il y a donc au menu de notre émission aujourd'hui. Merci de rester avec nous et bonne écoute. La visite actuelle de l'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine Albright en République tchèque est très suivie et commentée par les médias. L'ancienne diplomate, née en 1937 en Tchécoslovaquie, semble resserrer les liens avec son pays d'origine, venue officiellement pour assister à l'inauguration de la statue du président américain Woodrow Wilson, cofondateur de la Tchécoslovaquie indépendante. Madeleine Albright était aussi une des invitées de marque de la soirée-concert donnée samedi par Václav Havel à l'occasion l'occasion de la célébration de ses 75 ans. Elle a profité de l'occasion pour assister à la première du film documentaire consacré à son père, Josef Korbel, diplomate tchèque devenu professeur d'université aux États-Unis. Madeleine Albright a accordé également plusieurs interviews aux médias tchèques. Dans celle accordée à la télévision tchèque, elle a parlé de ses activités actuelles et aussi évoqué la situation et les perspectives du monde actuel.
Je suis en train d'écrire un livre. Je suis née en 1937 et je me concentre sur la période entre 1937 et 1948, historiquement très importante. Et je vois cette période un peu sous le prisme de l'histoire de la vie de mon père. Le ministère des Affaires étrangères a mis à ma disposition beaucoup de documents. C'est très intéressant et je cherche à rassembler toutes ces informations.
D'après Madeleine Albright, le monde au seuil du XXIe siècle n'est plus ce qu'il a été et continue à changer rapidement. Elle se montre optimiste cependant en ce qui concerne l'avenir des États-Unis.
Je pense toujours que l'Amérique restera le pays le plus influent, mais elle aura d'autres partenaires parce qu'elle en aura besoin. Il y a les problèmes actuels, comme par exemple le nucléaire, le terrorisme, l'environnement, et pour les résoudre, nous avons besoin d'une coopération entre les pays. Il est vrai également que les gens ne croient plus nulle part aux institutions existantes. Il y aura donc beaucoup de changements. Nous devons donc nous préparer à vivre dans un autre monde.
Dans ce nouveau monde, toujours selon Madeleine Albright, l'Occident devra collaborer avec l'Orient, le Nord avec le Sud. À son avis, nous faisons partie d'un ensemble et devons par conséquent apprendre à suivre la situation dans les autres pays et sur les autres continents, que ce soit l'Amérique latine, l'Afrique du Sud ou la Chine. Nous dépendons donc tous de plus en plus les uns des autres et Madeleine Albright espère que notre coopération ne sera pas freinée par de nouveaux nationalismes. La coopération est nécessaire aussi dans la lutte contre le terrorisme.
Je pense que les gens ont vraiment compris qu'il fallait faire quelque chose en Afghanistan contre Al-Qaïda et Oussama Ben Laden. On se demande maintenant s'il était vraiment nécessaire d'intervenir en Irak. On peut se poser la question, mais le fait qu'Oussama Ben Laden et d'autres leaders d'Al-Qaïda soient morts est très important. La lutte contre le terrorisme est un travail interminable. Nous serons malheureusement contraints de passer toute notre vie avec le terrorisme, mais Al-Qaïda n'est plus aussi forte qu'elle ne l'a été.
La vague des révolutions qui a récemment déferlé sur les pays musulmans est, selon Madeleine Albright, un de ces événements majeurs de notre époque, mais il ne faut pas espérer que ce processus aboutira rapidement à l'instauration de la démocratie dans ces pays. Cela va prendre beaucoup de temps et nous devons tous les aider, souligne-t-elle. Depuis le 15 septembre et jusqu'à la fin décembre se déroule la Biennale d'art contemporain de Lyon. Cette année, des artistes tchèques y sont également présentés. Anna Kubichta s'est entretenue avec Thierry Raspail, directeur artistique de la Biennale, qui lui en dit plus sur cette 11e édition.
Écoutez, la Biennale de Lyon en est à sa 11e édition. Elle a donc été créée en 91 et c'est une biennale qui s'organise autour d'une exposition internationale, bien évidemment. Tout cela commence toujours, le dialogue en tout cas commence toujours par un mot, un terme. Ce mot vaut pour 3 éditions de la Biennale. Donc nous en sommes à notre 4e mot. Ce sont des mots toujours très larges, très génériques. Et là nous sommes dans un mot qui est transmission. Alors ce mot n'est pas un thème, mais c'est un point de départ et un dialogue avec les commissaires, et c'est cela qui constitue, je dirais, l'ossature, la base du principe de narration.
Alors justement, vous avez quelques artistes tchèques dans cette biennale. Est-ce que vous pourriez simplement nous rappeler brièvement qui sont-ils et pourquoi vous les avez choisis et en quoi ça s'articule justement avec le thème de cette année transmission?
Il y a un secteur qui est, à mon avis, le cœur de l'Europe, qui est extrêmement important, qui est l'Europe centrale, et que nous avons, pour plein de raisons, un tout petit peu négligé. Et l'idée, c'était de revenir au cœur de cette Europe centrale, parce qu'il y a eu des artistes absolument formidables qui, pour des raisons historiques, anthropologiques complexes, ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'ils devraient être, en tout cas dans la mémoire. Alors je fais allusion, par exemple, à Drigard, qui est un artiste absolument formidable, qui appartient vraiment à l'histoire de l'art, qui intervient dans une étrange relation, enfin étrange non, qui intervient dans une relation entre la ligne, c'est-à-dire un travail qui serait plutôt, qui relèverait plutôt du dessin, mais en même temps de l'univers sonore, et qui crée comme ça sur des, qui crée des trames, qui crée des grilles, mais qui sont des petit monde qui relève, qui révèle plutôt une immense complexité. Et là, nous accordons une très large place à Mélane Grigard. Mais nous avons, par exemple, Eva Kantatkova, qui est une artiste merveilleuse, qui elle, donc d'une génération
beaucoup plus jeune,
oui. Évidemment, elle a une trentaine d'années, et qui réalise une très 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 belle installation. Qui occupe un peu plus de 100 mètres carrés, et elle, Eva, la raison pour laquelle j'évoquais ce phénomène historique un petit peu ancien de l'Europe centrale, Eva, elle travaille sur tout ce qui, dans le monde que nous vivons, ça n'a plus rien à voir, bien évidemment, avec une géographie quelconque, avec une histoire tchèque ou avec une histoire française ou européenne, mais c'est plutôt une remarque globale, c'est toutes les contraintes que le corps est amené à affronter.
Dernière question, vous parliez justement de transmission, ça me fait penser justement que ces jeunes artistes, alors en effet vous dites par exemple, eux ont la chance, contrairement peut-être à leurs aînés, de voyager, de communiquer, d'échanger avec d'autres artistes de leur génération, ce que par exemple leurs aînés ne pouvaient pas faire pour des raisons politiques simples. Est-ce que vous pensez pourtant quand même que ces artistes, ces jeunes artistes par exemple, peuvent avoir été marqués par leur passé, ou finalement c'est pas quelque chose qui est marquant chez eux?
Alors si vous voulez, évidemment ça dépend de chacun des artistes, bien sûr, mais très globalement, ce qu'on observe, et je crois que c'est un phénomène très général, ce qu'on observe dans la génération Internet, on va dire cela comme ça, hein, ces jeunes qui ont entre 18 et, allez, poussant jusqu'à 40 ans et qui ont quasiment toujours connu ces phénomènes de réseau, c'est justement une tentative d'oubli de l'histoire. Et chez les artistes, on observe, à travers cette question de la transmission, qui est en filigrane dans la Biennale, justement cette volonté de ne pas oublier, soit de revenir sur des racines, racines entre guillemets, soit revenir sur des postulats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je suis dans le monde, je véhicule quoi? Qu'est-ce que j'échange? Comment je partage quoi? Et ça s'appelle l'histoire. Donc je pense que cette histoire étrange, cette histoire d'un enfermement dans l'Europe centrale, en tout cas pour une partie de l'Europe centrale, est extrêmement importante, parce que vous avez une grande quantité de jeunes artistes qui précisément, en raison de cela, se préoccupent de l'histoire. Et il y a dans cette histoire de l'Europe centrale des germes absolument formidables, puisque c'est toute la modernité qui est née dans les années 10-20 et au-delà. Et donc là, je crois qu'on a encore matière. On n'est pas dans une histoire passée, mais au contraire, dans une histoire du devenir. Et c'est formidablement bien porté et soutenu, je dirais, notamment par les jeunes tchèques.
Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. Suite de notre programme avec aujourd'hui la mission Panorama. Sacha Oulova a étudié les langues et civilisations roms. Elle a longtemps travaillé sur le terrain et fait partie aujourd'hui de l'ONG Romea, qui publie un magazine appelé Romano Vodi, dont elle a la charge. Sacha Oulova avait déjà suivi de près l'affaire du mur d'Oustina de Labem, qui avait fait beaucoup couler d'encre dans les médias nationaux et étrangers en 1999. Récemment, elle était dans la région de Chluknov, où la tension est montée d'un cran entre Roms et non-Roms. Au micro d'Alexis Rosenzweig, Sacha Oulova est revenue sur ces derniers développements.
Panorama.
Panorama.
Les raisons pour lesquelles les problèmes à Oustie sont passés il y a 10 ans, et les raisons pour lesquelles aujourd'hui les gens du Nord font les démonstrations contre les Roms sont les mêmes, c'est-à-dire la politique de l'État et des villes qui ostracisent les Roms. Donc en fait... Les mairies fonctionnent. En fait, elles, quand il y a des familles roms, ils mènent une politique qui essaye de les évacuer de la ville. Donc, généralement, par exemple, il y a plusieurs familles roms qui habitent dans la ville. Après, il y a des familles roms qui habitent dans des soi-disant ghettos. Et en fait, les mairies vendent des maisons où habitent des roms aux propriétaires privés, très bon marché. Et ces propriétaires privés, après, ils virent les roms de ces maisons-là. Et en fait, la seule possibilité pour les familles, généralement, c'est d'aller habiter dans des ghettos où cumulent après les problèmes. Et d'où, après, en fait, les voisins qui habitent, les voisins non-roms, qui habitent pas loin de ces ghettos, se plaignent. Donc, après, la ville, elle essaie encore de repousser les roms encore plus loin. Donc, en fait, là, c'est une politique qui mène à un repoussement de plus en plus loin. Et c'est, en fait, le but de beaucoup de politiciens locaux de supprimer ces problèmes-là de cette manière-là, de repousser les Roms. Et en fait, donc, ce qui nous attend, c'est des problèmes encore plus graves dans quelques années si cette politique continue.
Vous parliez des manifestations dans la région de Chluknov et notamment à Varnsdorf où vous étiez récemment. Qu'est-ce que vous avez parlé à la population locale et à ses voisins de Rome? Quelle est votre impression sur ce qu'ils vous ont dit?
À vrai dire, j'étais un peu étonnée. J'attendais beaucoup plus des réactions plus ouvertement racistes ou plus pleines de haine. J'étais étonnée que quand j'ai discuté un peu plus longtemps avec les gens, après, bon, au début, ils disaient qu'en fait, les Tziganes, ils sont la faute de tout, qu'ils les aiment pas, qu'ils font des problèmes. Mais presque tous les gens auxquels j'ai parlé ce jour-là, ils ont commencé à parler d'autres problèmes qu'ils ont, notamment de la corruption et des problèmes au niveau de la ville, de la mairie. Et donc, en fait, ma conclusion de ces dialogues-là, c'est que les gens au nord, ils ont le même sentiment anti-tzigane que tous les autres tchèques dans le pays. Même ici, dans le quartier où j'habite à Prague, où il n'y a pratiquement pas de tziganes, les gens, ils les aiment pas. Mais en même temps, ils ont beaucoup d'autres problèmes. Ils sont au chômage, la région, elle est un peu délaissée. C'est l'État qui a pas investi dedans. Donc, les gens, ils sont dans une sorte de dépression. Et les tziganes, c'est la première chose qui leur vient en tête. Mais si on travaille avec eux, si on discute avec eux, on voit bien que c'est pas le seul problème qu'ils ont. C'est pas vraiment les tziganes qui causent leurs problèmes. Mais ils ont besoin de quelque chose qu'ils peuvent bien formuler et qu'ils peuvent avec les autres qu'ils peuvent se dire qu'ils aiment pas quelqu'un. Bon, je pense que c'est partout pareil.
Le Premier ministre tchèque Petr Nečas s'est rendu dans cette région de Chluknov récemment et a parlé de mesures prônées par le gouvernement, qui sont notamment des mesures qui consistent à conditionner le versement d'allocations sociales à certains travaux d'intérêt général pour ces populations roms. C'est-à-dire que on ne pourrait pas toucher ces allocations si on ne fait pas de travail d'intérêt général après une durée de 2 mois. Est-ce que c'est le genre de mesure qui peut apporter des solutions, selon vous?
Selon moi, ça ne peut pas apporter de solutions. C'est de la répression, déjà. Et après, en fait, ça vise un problème qui n'est pas vraiment le problème. Comme j'ai dit avant, le problème de cette région-là est que, par exemple, il y a un taux de chômage très élevé. Au moment où on va poser des problèmes aux gens de cette manière-là, ça va toucher bien sûr aussi les non-roms. Ça va juste, la population, elle va avoir encore plus de frustration. Donc, je pense que ça va dans un sens opposé.
On parle de solutions beaucoup plus en amont, à savoir déjà faire en sorte que les enfants roms ne soient plus discriminés dans le système scolaire. Je sais que vous connaissez bien le problème parce que vous avez enseigné dans une école pour enfants roms, des enfants qui sont souvent envoyés dans des écoles dites spéciales. Est-ce que c'est un problème clé, l'éducation?
On peut dire que c'est un des problèmes clés, c'est l'éducation. Il y en a d'autres, c'est le travail et l'habitation ou l'hébergement. Mais le problème de ce gouvernement-là est que, en fait, ils ne font rien dans ce sens-là. Et avant les élections, au ministère de l'Éducation, il y avait donc un autre ministre, c'était Krzelichka, du Parti Vert, il y avait son adjointe, Klára Laurenčíková, qui était la première personne depuis 20 ans ici, qui a vraiment commencé à faire quelque chose avec ce problème de discrimination. Elle a commencé à faire un grand nombre de pas pour justement qu'il n'y ait plus de cette ségrégation, que les enfants n'aillent plus dans les écoles pour les enfants handicapés mentalement. Et après donc les élections, on a arrêté tout ce travail-là. Et il y a des gens qui travaillent au ministère qui disent qu'en fait, c'est peut-être mieux pour les enfants roms d'aller dans ces écoles-là parce qu'ils se sentent mieux, que c'est pas aussi mauvais que les enfants soient séparés, parce que pour les parents tchèques, c'est difficile d'accepter le fait que les enfants, leurs enfants aillent à l'école avec les enfants roms. Donc en fait, la tendance, elle est de nouveau contraire. C'est un peu le statu quo de maintenant, c'est-à-dire laisser la ségrégation parce qu'en fait, c'est difficile de faire quelque chose avec. Donc ce travail-là qui a été commencé, on le fait pas. Donc si maintenant le gouvernement dit qu'ils veulent faire quelque chose avec, ça serait peut-être la première chose à faire, c'est de continuer ce travail-là.
Est-ce que la République tchèque peut s'en sortir seule dans le contexte européen en ce qui concerne l'intégration des Roms? On voit dans plusieurs pays de la région des problèmes, très récemment en Bulgarie. Est-ce que la République tchèque peut y arriver toute seule ou les solutions à entreprendre doivent venir de l'Union européenne, même si beaucoup de fonds destinés à l'aide à la minorité rome n'a pas été très efficace jusqu'à maintenant?
Je pense qu'il y a des sources dans le pays pour résoudre le problème. Il y a des gens qui s'occupent de cette question-là, qui sont vraiment spécialistes, qui pourraient être embauchés par les ministères. Ça serait possible. Le problème, c'est que, bon, avec les changements des gouvernements, et notamment donc ce dernier gouvernement-là, qui, en fait, leur principal but, c'est de faire des économies, et ils ne se posent plus la question comment ils vont les faire et quelles seront des conséquences de ces économies-là. Donc, en ce moment-là, je pense que même avec l'Union européenne, on peut pas faire grand-chose. L'Union européenne, elle peut aider, mais seulement au moment où on mobilise les forces du pays.
C'était donc Sacha Ulova, spécialiste de langue et de civilisation rome, au micro d'Alexis Ronsweig. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.